Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Beaujolais, bonjour le Val-de-Saône, ravi de vous retrouver dans ce rendez-vous quotidien, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 3 novembre 2022 et il fait un peu gris dans le Beaujolais, il fait très gris en fait. On attend de la pluie dans la soirée, on pourrait presque trouver que les 15 degrés qu'on a dehors, ça fait un peu frais, mais finalement on est toujours bien au-dessus des normales de saison. Dans notre émission, nous allons parler jeux de société avec Cédric du Lorana, on va parler blues également avec André Dutronc, mais d'abord on va s'intéresser à nos invités du jour. On reçoit l'AMOF aujourd'hui, les Amis du Modélisme Ferroviaire, une association basée à Belleville qu'on peut qualifier d'historique parce qu'elle a été créée en 1976. On va donc parler de modélisme bien sûr, ils vont nous expliquer en quoi consiste cette passion qu'ils ont, comment est-ce qu'ils pratiquent cette activité, et puis on va parler en particulier de leurs œuvres, de leurs créations, de ce qu'on peut voir chez eux. Pour avoir vu quelques photos, c'est souvent du travail d'orfèvre, alors ils vont nous expliquer comment ils font. Ils organisent des journées portes ouvertes ce week-end, samedi et dimanche, de 9h à 17h dans leurs locaux à l'Hôtel Dieu de Belleville. On va parler également de ce rendez-vous. Avant de discuter donc avec Jean-Michel Perrier, vice-président, et Bernard Chave, secrétaire des Amis du Modélisme Ferroviaire, on va commencer notre émission comme d'habitude en musique. On écoute Le Couleur avec un morceau qui s'appelle Train de minuit. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14, merci d'être avec nous.
Partir sans fuir.
C'était Train de minuit qu'on vient d'entendre sur Calade du groupe Le Couleur.
Ensemble sur Calade.
Allez, nos invités du jour sont Jean-Michel Perrier, bonjour, vice-président de l'association La MAF.
Bonjour.
Et Bernard Chave, secrétaire de cette association.
Bonjour.
Et donc, La MAF, c'est les amis du modélisme ferroviaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette association qui a une longue histoire? Comment est-ce qu'elle a été créée et ce qu'elle fait? Quelles sont ses activités?
Alors effectivement, c'est une longue histoire. L'association existe depuis 1976 à Belleville. Et depuis une quinzaine d'années, nous sommes dans les locaux de l'Hôtel Dieu. Ouais. Ce sont des locaux dans un milieu historique. Et notre projet de ces 15 dernières années ont été justement de faire un lien avec ce lieu historique, avec la fabrication de différentes maquettes. Et j'en profite pour souligner l'intérêt qu'a porté la mairie de Belleville sur nos activités associatives et nous a permis de nous installer dans ces locaux. Donc un grand merci à la municipalité de Belleville.
Vous, à titre personnel, comment est-ce que vous êtes intéressé au modélisme, justement? Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous vous souvenez, je ne sais pas, de votre premier petit train ou
Ah oui, très très bien. Le premier petit train, je devais avoir 8 ans et effectivement, c'était l'époque du train miniature partout dans les magasins et c'était vraiment l'attirance totale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les modélistes, quand on les regarde, on en rit entre nous, on se classe de tête blanche, parce que bien souvent, ce sont des personnes assez âgées qui pratiquent ce modélisme-là, même si on a aujourd'hui une vraie révolution, avec de très jeunes qui sont intéressés par le modélisme grâce aux nouvelles technologies.
D'accord. Et comment est-ce qu'on passe du petit train, justement, de quand on est enfant, où c'est un jouet, aujourd'hui, les maquettes qui sont travaillées, qui sont réfléchies, et on est plus dans quelque chose d'artisanal que dans le jeu, c'est une autre manière de faire, j'ai l'impression.
Alors, on passe l'adolescence déjà, et puis on découvre que des adultes jouent au train. Ouais. Entre guillemets. Mais c'est vrai que communément, jouer au train, c'est faire tourner un train autour d'un sapin de Noël. C'est l'image qu'on a tous.
C'est le cliché qu'on a en tête.
Voilà, c'est le cliché. Mais le modélisme, c'est vrai que c'est autre chose. C'est-à-dire que le modélisme, on fait appel à des connaissances en menuiserie, parce qu'on travaille sur des supports bois, en électricité, en électronique. Et puis, aujourd'hui, on est passé sur l'informatique, puisqu'on programme des machines, et sans oublier ce qui fait l'essence même du train miniature, c'est pas seulement faire tourner un train sur des rails, c'est le mettre dans son contexte géographique. Ouais. Et là, ça fait appel à d'autres cordes, je dirais, qui vont être la peinture, qui vont être le travail du bois, mais minutieux pour la construction, le travail du carton, le travail du papier, enfin tout ce qui fait de la décoration artistique.
C'est l'aspect maquettiste, du coup, c'est ça?
C'est l'aspect maquettiste, hein, mais qui artistique, oui.
Et vous avez parlé du réalisme géographique, de mettre le train justement dans un contexte. C'est peut-être aussi le réalisme historique, c'est que quand on met une maquette de locomotive à vapeur, on va peut-être pas mettre le même décor qu'une maquette de TGV, je sais pas.
Alors, au fil du temps, les décors n'ont pas beaucoup bougé. Si vous voulez, les gares, elles se sont modernisées, effectivement, mais un arbre est un arbre, enfin... La géographie n'a pas bougé. Après, on va parfois faire attention à ne pas mettre des voitures 1930 avec une rame TGV, encore que ça peut arriver aujourd'hui. C'est plutôt l'inverse qu'on peut voir, effectivement. Il y a des collectionneurs de véhicules anciens qui vont circuler sur les routes et en même temps qu'un TGV va circuler. Donc, il n'y a pas forcément d'anachronisme. Et puis, on n'est pas aussi puriste que cela et on a aussi envie de faire du train miniature pour se faire plaisir.
Ouais. Et alors, quelque chose qui impressionne quand on regarde en général les maquettes de modélisme, c'est le souci du détail. C'est qu'on va rajouter Je sais pas moi, un petit lampadaire, un pot de fleurs, des tout petits objets. Et c'est ce genre de choses qui vont rendre la maquette plus réelle. Si on a juste la maison avec un arbre à côté, ça fait faux, mais les petits détails, c'est ça qui rend le...
Ah oui, plus réel, plus vivant. C'est-à-dire qu'on essaye de... C'est vrai que sur une maquette de maison, ben, on mettra toujours quelqu'un qui est dans son jardin, ou on mettra un chien, ou on rajoutera les choses de la vie. C'est-à-dire que c'est vrai que notre reproduction des maquettes, c'est vraiment de coller à la réalité, mais du quotidien. Ouais. Après, le modélisme, c'est comme la maquette, enfin, c'est la même chose, c'est une ambiance générale qui est retranscrite. On ne va pas être stricto sensus à coller à la réalité. D'abord, on ne le pourrait pas, ouais, puisque une question d'échelle ne nous permettrait pas de le faire. Mais c'est de donner une ambiance générale.
D'accord. C'est ce que je me demandais, c'était une question que je m'étais posée. Est-ce que vous avez reproduit, je ne sais pas moi, une maquette qui fait une partie du Beaujolais exactement? Est-ce que vous avez fait des choses très réelles ou
Alors, c'est là où intervient donc l'aspect... Comment peut-on se rapprocher du patrimoine en représentant du ferroviaire? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les voies secondaires sont beaucoup fermées.
Ah, les voies secondaires, qu'est-ce que c'est?
Alors, les voies secondaires, c'est-à-dire toutes ces voies qui reliaient des villes entre elles, mais qui n'étaient pas dans le réseau principal. Hein, les Lyon-Paris, ok, ça fonctionne, bien sûr. Certaines voies secondaires, c'est-à-dire, pour la plupart fermées, rouvrent un petit peu de temps en temps. Et puis, il y a surtout, par rapport à ce lien avec le patrimoine, c'est des voies qui sont inexistantes, qui sont enfouies dans l'herbe, dans les broussailles. On peut parler, par exemple, des chemins de fer départementaux. Ouais. Si on regarde au début du siècle dernier, il y avait énormément de chemins de fer départementaux parce que le contexte du transport l'exigeait. Mmh. Aujourd'hui, c'est des US, c'est des autocars, c'est des bus, des camions. Mais il y a encore moins de 100 ans, tout ça existait. Et donc, au niveau de notre club, on s'est vraiment tourné sur cet aspect du patrimoine. Deux axes pour ça. La première chose, comme j'expliquais au début, on est dans une enceinte d'un monument historique. Ouais. Et là, il serait dommage de ne pas avoir une certaine synergie avec l'association qui gère ce monument historique, hein, qui est l'Hôtel Dieu. C'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est de dire, finalement, s'il y avait des chemins de fer départementaux, au hasard des randonnées que l'on peut faire, par exemple, sur les voies du Beaujolais.
C'est ce qu'on appelle la voie du Taco.
Par exemple, la voie du Taco. Eh bien, retrouver des vestiges de cette voie du Taco, et ils existent, des anciennes gares et tout. Eh bien, notre travail et notre passion, c'est de reproduire certains vestiges. Quand on vient nous voir, on va expliquer ce que c'était que ces chemins de fer départementaux, par où ils passaient, ouais, et du coup, les randonnées qui suivent, eh bien, ont un autre sens pour chacun, parce qu'on explique dans quel contexte géographique, dans quel contexte politique ça avait été traité. Et là, on est intarissable sur le sujet, parce qu'on a réellement étudié ce sujet et représenté donc en maquette différentes choses de ces trains.
Il paraît que ça avait été une sacrée affaire politique, justement, ces petits trains, enfin ces petits trains, ces voies, de savoir par quel village ça allait passer, que ça avait c'était complexe de dessiner les tracés, c'est ça?
Exactement, ça a été complexe sur le dessin des tracés, sur des tracés qui étaient assez curieux, mais qui répondaient à des besoins politiques, clairement. Mmh. Et puis, aussi, notre démarche pour faire le lien avec le patrimoine, on la veut le plus pédagogique possible. C'est-à-dire que quand on vient nous voir au club de train, visiter, comme ça sera le cadre dans les journées de samedi et de dimanche, on fait visiter par petits groupes. Ouais. C'est-à-dire qu'on a envie d'échanger, on veut que ça soit le plus interactif possible. On veut expliquer beaucoup de choses, on veut avoir beaucoup de questions. Et c'est pour ça que ces groupes, on les accompagne. Donc on souhaite que ces différentes visites soient le plus pédagogiques possible. Et puis, des personnes qui vont venir avec déjà des connaissances, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, de l'Arduino, par exemple. C'est quoi l'Arduino? Eh bien, on passe finalement d'une partie de démarche de se rapprocher du patrimoine, et puis tourner vers des choses extrêmement évoluées et qui sont en cours d'invention même. Dans le cadre d'Arduino, ce sont des cartes d'automatisme. Et là, on va très loin au niveau de la technologie.
Ouais. C'est-à-dire que le train a évolué ces dernières années, la technologie et le modélisme aussi a évolué. Vous avez des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est passé... La plupart de nos maquettes initiales, soit c'était des maquettes du commerce que nous fournissaient des fabricants et qu'on achetait dans les différents magasins de modélisme qui se font de plus en plus rares. Aujourd'hui, sur Lyon, il ne reste plus qu'un seul magasin. Ouais. Et après, on achète plutôt par Internet quand on n'a pas la fourniture. Et puis, il y a l'arrivée des nouvelles technologies qui font appel à des logiciels vectoriels ou des logiciels donc en trois dimensions, ouais, qui nous permettent de faire ce qu'on appelle de la découpe laser, c'est-à-dire qu'on reproduit sous informatique des bâtiments, et puis ensuite on a des machines qui sont des découpes laser et qui nous les font dans du contreplaqué, du médium, du carton bois, enfin toutes ces choses qui sont à destination, que l'on trouve dans n'importe quel magasin d'art graphique.
Ok.
Et puis on a aussi la technologie, par exemple la fameuse technologie Arduino, c'est des plateformes d'automatisme quasi gratuites, enfin quasi gratuites. L'expression est un peu à majorer, dans le sens où c'est donner la possibilité de faire de l'informatisation des réseaux, de l'animation de scénettes, ouais, avec des processus informatiques, mais qui sont aujourd'hui développés en école primaire.
Ah ouais,
parce que le système Arduino est un système complètement ouvert, et puis il y a ce qu'on appelle Arduino Play, où les enfants sont capables de faire fonctionner des systèmes simplement en cliquant sur des bulles. Et ils vont faire fonctionner, je ne sais pas, allumer une lampe automatiquement, faire descendre des volets roulants, enfin des choses de cet ordre-là.
D'accord. Et donc c'est avec ça que vous allez programmer le passage du train sur les maquettes.
Voilà, on peut programmer ce genre de choses, automatiser complètement. Alors, on n'est pas... Nous, on a toujours cette notion de faire du train... un peu à l'ancienne, c'est-à-dire de toujours piloter nos trains. Ouais. On n'est pas passé dans la phase totale où c'est un ordinateur qui pilote nos trains. On pourrait le faire, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout notre souhait. Notre souhait, c'est de continuer à faire du modélisme un peu à l'ancienne, continuer à piloter nos trains, mais faisant appel aux technologies nouvelles.
D'accord. Et comment vous êtes, on n'en a pas forcément parlé, comment est-ce que vous êtes organisé au sein de l'association ? Il y a combien de personnes autour de Belleville qui participent, et comment est-ce qu'elle vit cette association au quotidien en dehors des portes ouvertes où on peut venir découvrir ce que vous faites?
Alors au quotidien, nous avons deux réunions par semaine, le mardi principalement, quelquefois en axe le jeudi. On avait à une époque, avant le Covid, on avait une réunion mensuelle tous les samedis avec un grand repas entre nous, puisque nous sommes une quinzaine de membres, ouais, au sein de l'association. Et au sein de l'association, on a chacun un petit peu nos spécialités, où on a développé chacun nos spécialités. C'est-à-dire qu'il y a un décorateur spécifique. Lui, c'est... Vous lui donnez trois morceaux de bois et deux morceaux de carton, et il va vous sortir un décor.
Ouais.
Il y en a d'autres, c'est la spécificité, c'est vraiment travailler l'informatisation, d'autres c'est l'électronique pure, voilà, on est vraiment une pluralité de spécialités, et c'est vraiment le but de ce club, c'est-à-dire que les modélistes un petit peu, et particulièrement dans le ferroviaire, sont assez individualistes, et on sait qu'il y a plein de membres dans notre région qui font du train, mais chez eux, en catimini, peut-être parce que c'est l'idée aussi, ce sont des adultes qui jouent encore au train,
ouais,
et peut-être qu'on fait ça, cette passion-là est un peu plus masquée que d'autres, à l'inverse de l'aéromodélisme ou du bateau ou de l'automobile, qui ont beaucoup plus de jeunes au sein de leur association. Et nous, par contre, on est vraiment sur un schéma. Aucun d'entre nous n'avons de réseau chez nous.
Ouais.
Parce que, pour des questions de temps, pour des questions d'envie, pour X raisons, on a plutôt souhaité, nous, avoir un réseau communautaire.
Mettre
où on participe les uns et les autres au gré de nos prévalences techniques. Et voilà.
Alors, je vais rajouter, pour compléter le propos de Jean-Michel, en plus, c'est qu'on est ouvert, bien sûr, à toutes les nouvelles adhésions à notre club, sachant que, comme on le précisait tout à l'heure, c'est extrêmement pédagogique, c'est-à-dire, on ne sait pas trop faire, Mais au bout d'un moment, on apprend à faire parce qu'on apprend ensemble. Donc on a un club qui est apprenant. Je ne sais pas faire de menuiserie, mais je veux bien apprendre. Eh bien oui, on va t'expliquer petit à petit. Donc on sait faire monter en compétence les personnes pour qu'elles se fassent plaisir aussi. Ouais. Et puis les parties techniques que les gens ne veulent pas aborder, il n'y a pas de problème. C'est l'ensemble de ces compétences qui nous permettent aujourd'hui d'ouvrir sans aucun problème les portes de notre club pour pouvoir accueillir justement et que l'accueil soit intéressant et soit formateur pour chacun.
Et bien justement, les portes, vous allez les ouvrir ce week-end, samedi et dimanche. C'est quoi un petit peu la visite type qu'on va pouvoir faire? Ça se passe comment, une visite? Vous avez dit que c'était pédagogique, qu'on n'était pas abandonné dans le lieu, que vous nous accompagniez.
Tout à fait. Donc ce sont des visites accompagnées, c'est-à-dire que c'est des petits groupes de 10.
Ouais.
Et puis il y a 4 ateliers à visiter. Alors quand je dis atelier, il y a par exemple, vous allez rentrer dans le monde du HO. Alors HO, c'est l'échelle 87e. C'est l'échelle la plus courante.
D'accord.
Et vous allez rentrer dans un réseau qui fait une trentaine de mètres carrés, mais vous serez dans une ambiance. Ensuite, vous voulez savoir dans le deuxième atelier comment s'est passée la vapeur, comment ça fonctionne, comment était organisée la gare de Belleville, qu'est-ce que c'est qu'une pompe à feu, par exemple. Donc là, en une dizaine de minutes, on vous explique toutes ces astuces et vous verrez à ce moment-là certains vestiges au sein de Belleville que vous regarderez avec un autre regard, parce que ça vous mettra une certaine explication. Et puis on a des échelles plus grosses, hein, c'est-à-dire un réseau sur lequel on peut faire piloter les enfants. C'est ce qu'on appelle du LGB, hein, c'est du train de jardin. Donc on a également un réseau fonctionnel. Et puis, la vue sur un projet, c'est comment on fabrique un réseau en N. Alors, le N, c'est le 160e, c'est beaucoup plus petit. Et le réseau est en cours de construction, la structure est faite. Comment, finalement, on fabrique?
C'est donc réfléchi, comment c'est imaginé?
Comment c'est imaginé, comment c'est réfléchi, voilà, exactement, oui. Et puis, sous Barnum, une multitude de maquettes qui seront présentées, une possibilité de piloter des trains, donc, comme l'expliquait tout à l'heure Jean-Michel. Donc, on ne s'ennuie pas. Il y a une petite buvette aussi, on peut boire un petit coup, discuter, etc. Donc,
Il y a des animations en extérieur aussi, je crois.
Oui. Il y a, alors, comme le disait Bernard, on a un certain nombre de modules et de maquettes animées qui seront sous Barnum à l'extérieur. Enfin, sous Barnum. Et complètement à l'extérieur, on va avoir un réseau type, alors toujours à l'échelle type LGB, c'est du 22e, mais qui est pratiqué également par les Playmobil. C'est l'échelle des trains Playmobil.
D'accord.
Et donc, il y a un membre du club de Châtillon-sur-Chalaronne qui sera présent avec ses trains Playmobil, qu'il a transformé parce qu'ils sont tous radiocommandés. Et les enfants vont pouvoir jouer avec ces trains en extérieur. C'est des trains qui ne craignent rien.
Ok.
Et puis, on a également un club, le mini-train de Sainte-Foy-l'Argentière. Ce sont des modélistes alors, qui travaillent à une plus grande échelle, hein, puisque ces trains transportent des passagers.
On peut s'asseoir dedans.
On peut s'asseoir dedans. Alors, dedans, non,
dessus.
Dessus,
dessus, ouais. Oui, c'est ça.
Parce
ouais.
que ce n'est pas fermé. Mais, et donc, ces trains vont évoluer au sein de la cour de l'Hôtel-Dieu qui nous a été mise à disposition pour cette journée porte ouverte.
Donc, pas mal d'émerveillement pour les plus petits, voilà, et voilà. Puis les curieux aussi, si voilà. J'ai compris, ils peuvent poser voilà. des questions. Ça.
Voilà. Les enfants pourront voir le train du Père Noël également.
Ouais.
Voilà.
Bon.
Et puis cette synergie avec l'Hôtel Dieu, justement, le lien avec le patrimoine et les différentes animations qu'on peut faire, par exemple, faire visiter des classes, on l'a déjà fait. Une partie de la classe visite l'Hôtel Dieu, alors on ne le fait pas pendant les portes ouvertes, mais on le fait en semaine. Une partie de la classe visite l'Hôtel Dieu, pendant que l'autre partie vient visiter le club de train. Et puis après, on échange
l'histoire ferroviaire du Beaujolais. Ouais,
exactement. Voilà,
qui est tout autour. Très bien. Donc, je rappelle le rendez-vous. C'est ce samedi et dimanche de 9h à 17h à l'Hôtel Dieu. Et on vous retrouve également sur les réseaux sociaux.
Exactement. Sur nos pages Facebook.
Et
sur le site également de la MOF. Les amis du modélisme.
Les amis du modélisme ferroviaire.
Belleville en Beaujolais.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette activité. Et puis on vous souhaite des belles journées portes ouvertes.
Merci de votre accueil et venez nombreux.
Très bonne journée, à bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, on va rester dans le monde du train encore un petit peu. On écoute les Doobie Brothers avec Long Train Running. Down around the corner. Les Doobie Brothers sur Calade avec Long Train Running.
Quand votre voisin de gauche rachète la banque à la moitié de sa valeur, il doit bien donner 17% des artichauts qu'il a gagnés pendant la dernière donne.
Ouais.
Jeu de société.
Ensemble sur Calade.
Ouais, mais si vous faites artichette, là, vous pouvez tenter la retournelle et balancer les annonces.
Bah ouais.
Allez, on parle de jeu de société. Pour cela, on retrouve l'équipe du Lorana. Bonjour.
Bonjour.
Donc on est avec, avec Cédric et Anna et vous nous parlez régulièrement de jeux de société. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, on présente trois jeux.
Très bien.
Funilight, Velomini et Happy City.
Ok. Et ben on commence par quoi?
Eh ben on va commencer par Velomino.
Velonimo.
Alors, Velonimo, c'est un jeu de cartes en fait, qui a été créé par Bruno Catala, qui va de 2 à 5 joueurs et qui est une sorte de bataille améliorée. Donc, le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes les cartes qu'on a en main.
Ouais.
Et mais ça va être un peu technique, il va falloir y aller au bluff. Je m'explique pourquoi. Le thème du jeu, c'est le vélo, vous l'aurez compris. Ouais. Et en fait, on est en train de faire une ascension d'un col. Donc, quand on va jouer nos cartes, il faut être endurant. Donc, quand on va sortir, par exemple, une combinaison de cartes, ça va faire une somme. Par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 9. Et ben, il ne faut pas sortir non plus sa plus grosse combinaison parce que derrière, les autres joueurs, le but du jeu, c'est qu'ils montent au-dessus de votre valeur. Donc, qu'ils fassent 10, 11 et tout ça. Et que du coup, vous êtes capable de faire peut-être aussi au-dessus pour récupérer la main et vous débarrasser encore plus de cartes. Donc, il faut être assez subtil comment on monte en valeur pendant le tour d'un jeu.
Okay.
Une fois qu'un joueur en fait, a vidé les cartes de sa main, la manche continue pour les autres joueurs aussi. Et en fait, il va avoir un classement des joueurs dans l'ordre où ils ont vidé leurs mains. Et ils vont avoir un coefficient multiplicateur par rapport à la manche et la difficulté du col qu'ils sont en train de grimper. Donc en réalité, c'est pas parce qu'on gagne toutes les manches, on gagne, mais si on gagne la première et la deuxième manche, peut-être que la manche 3 qui sera plus difficile, c'est pas vous qui l'a gagné, on peut être doublé par un joueur qui a mieux joué que vous.
D'accord.
Ok. Et donc au niveau des illustrations, on est sur un jeu vraiment fun parce que des animaux qui sont représentés, ils sont vraiment drôles. Il y a une vache par exemple, mais elle est complètement épuisée quand elle monte sur le vélo. On a un tigre, mais lui il est à fond. Enfin voilà. Il y a aussi un système de joker où c'est un lévrier. Donc lui quand on pose, il fait tout de suite beaucoup de points. Donc là hop, on peut reprendre la main. Et aussi ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il est très très bon en duel. Parce qu'il y a des règles adaptées pour jouer à deux. Ouais. Et en fait, là, les animaux ont des effets et on peut faire piocher les cartes de l'adversaire. Donc, du coup, le ralentir pour perdre le duel. Voilà.
D'accord. Ah, c'est pas mal, les jeux qui se jouent à deux. C'est rare.
Ouais. Il est fabriqué en France. Un jeu fabriqué et assemblé en France, voilà, créé par Bruno Catala. Et, voilà. De 5 joueurs pour des parties environ 30 minutes, grand maximum.
Super. Voilà. Velonimo.
Ouais.
Eh bien, c'est noté. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre besace?
Dans mon panier, j'ai un Funilines. Alors, Funilines, c'est aussi un jeu de cartes, mais du coup, c'est un jeu de cartes avec des formes géométriques, à base de formes géométriques.
Ok.
Il va falloir, donc pareil, ça peut se jouer à deux ou plus, ou en équipe. On a devant nous une carte avec des formes géométriques qui représentent un dessin. Là, devant moi, par exemple, j'ai un tracteur, un appareil photo. Et on a un certain nombre de formes géométriques, des ronds, des triangles, des lignes, des carrés, des rectangles, etc.
Ouais.
Et le joueur, donc l'équipe ou le joueur adverse, doit acheter les formes géométriques pour pouvoir deviner le dessin qu'on va faire. D'accord ? Donc, il y a un pot commun au départ. Ensuite, on achète. Et selon le nombre de formes géométriques qu'on va acheter, on va dessiner sur une grande carte ce que le joueur aura acheté.
Ouais.
S'il arrive à deviner la forme, il remporte le pot.
D'accord.
Voilà.
Donc,
comme je vous ai dit, en équipe, ça marche super bien aussi. Ce jeu, il est fun parce que du coup, ça change complètement. On peut jouer à tout âge. Il est assez original, assez facile à prendre en main et puis on dessine, donc c'est plutôt sympa comme forme de jeu. Pareil, jeu français qu'on fait en France aussi.
Et ça s'appelle Funny Lines comme les lignes drôles, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ok.
Exactement.
Pour savoir comment l'écrire. Très bien. Et alors, le troisième jeu que vous nous proposez?
Alors là, c'est Happy City. C'est un petit jeu de ressources, enfin de salaire. On va gagner un salaire parce qu'on crée, on est le maire d'une ville et on va créer une ville. Plus on a de bâtiments dans notre ville, plus notre salaire augmente, plus on peut acheter de gros bâtiments. Okay. Et il y a des objectifs. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est en fait, Happy City, il faut créer la ville qui a le plus de bonheur possible. Donc, quand on va jouer, au début, tous les joueurs auront une seule carte qui rapportera une pièce de salaire et deux pièces de départ pour commencer la partie. Au centre de la table, les joueurs auront aussi un magasin de bâtiments qu'ils peuvent acheter. Il y a des bâtiments de différents niveaux, il y a trois niveaux différents. Donc au début, les bâtiments de niveau 1 sont faciles à acheter. Plus on va en acheter, plus on aura de salaire. Et on pourra après acheter les niveaux 2 et les niveaux 3. Et le but du jeu, pour gagner, il faut réaliser des objectifs. Par exemple, avoir trois bâtiments de type bleu dans sa ville, en avoir aussi d'autres de d'autres couleurs. Certaines combinaisons de bâtiments nous permettent d'acheter des bâtiments spéciaux pour encore améliorer notre ville. Et en fait, une fois que tous les bâtiments spéciaux ont été achetés, il y en a un nombre de 6, c'est on clôture la partie. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller faire le plus de salaire, acheter des bâtiments pour augmenter son salaire et après réaliser les objectifs demandés pour pouvoir acheter les derniers bâtiments et clôturer la partie. Ouais. Ensuite, le calcul des points, en fait, c'est très simple. Dans votre ville, vous regardez le nombre de bâtiments qui ont des cœurs et le nombre de bâtiments qui ont des citoyens. Et du coup, vous faites la multiplication des deux et en fait, la multiplication des deux vous donne votre score.
Donc les cœurs fois les citoyens. C'est le nombre de citoyens heureux et c'est le score final.
Voilà, c'est ça.
Et
du coup, plus il y a de citoyens heureux, plus vous avez un gros score et du coup, vous avez gagné la partie. C'est un jeu en fait qui est bien parce qu'il se joue à partir de 10 ans et qu'on soit entre en adulte ou avec des enfants, ça marche très très bien. C'est 30 minutes et le jeu est joli. En fait, c'est un design très jeu vidéo. Les cartes que vous avez, c'est un design très, on dirait un peu du pixel art presque. Ouais. C'est très vu du dessus. Enfin voilà, c'est vraiment très bien décoré. Pour terminer, personne, en fait, on n'attend pas les autres joueurs. Quand on obtient ce salaire, tout le monde a son salaire en même temps. Ouais. Donc, du coup, on ne s'ennuie pas, on n'attend pas que les autres joueurs jouent, ça va très très vite, c'est rapide. Et on peut surtout embêter les autres joueurs en supprimant d'autres cartes au moment de notre tour. Donc, les empêcher de faire grandir leur ville et tout ça. Voilà.
Ok, donc il n'y a pas des tours interminables, on peut y jouer même avec les pitchouns. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la stratégie et que.
Oui, entre adultes, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien.
Ok, Happy City, ça a l'air bien sympa. Ouais. Très bien. Et merci beaucoup pour cette sélection. Qu'est-ce qui se passe de beau, Lorana, pendant la fin des vacances?
Alors, on a samedi à 17h cette semaine, nous avons un loup-garou qui est organisé et on fait une spéciale jeu pour terminer la semaine des vacances d'Halloween en beauté. Pour terminer, on fait une soirée spéciale jeu d'épouvante un peu, voilà, qui sont dans l'ambiance un peu horreur, fantôme, mystérieux pour samedi soir. Ensuite, nous avons le samedi, si je dis pas de bêtises, 19 novembre.
Ouais.
Je vérifie, c'est ça, c'est bien un samedi. Nous avons un retour sur les années 70, donc on fait une grosse soirée, comme on l'avait fait avec la boom des années 90. Ouais. Mais là, plus sur un format, on va fêter ça, un retour sur les années 70. Et le 26, on a notre maintenant traditionnel blind test, parce que tous les derniers samedis du mois, on fait des blind tests. Là, ça sera sur le thème 80-90.
Très bien, merci beaucoup pour votre sélection de jeux et puis ce chouette programme, Lorana. On se dit à tout bientôt.
À bientôt.
Bonne journée.
Ensemble sur Calade.
Allez, après avoir parlé du jeu Happy City, ça m'a donné envie d'écouter C2C avec le titre Happy. You'll never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You'll never feel happy. We'll be right back.
everything.
C'est C2C qu'on écoute sur Kellad avec un morceau qui s'appelle Happy et sur lequel chante un certain Derek Martin, si vous voulez tout savoir.
Ensemble sur Kellad, le blues du jeudi.
Il y en a, il serait mieux de faire du blues, hein.
Et oui, c'est jeudi, et le jeudi, on termine notre émission traditionnellement avec un peu de blues. Et aujourd'hui, pour cela, on va retrouver André Dutronc. Bonjour André.
Bonjour Mathieu, bon. Bonjour aux auditeurs.
Ça va bien, en forme?
Oui, voilà, alors, ça va bien.
Alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler? De quel artiste? De quelle chanson?
Disons qu'aujourd'hui, je voulais revenir sur un artiste dont j'ai déjà parlé. Un artiste qui, on va dire, qui est local, mais qui est aussi américain, puisque c'est un Texan d'origine.
Ouais.
Donc c'est notre ami Neil Black. Donc à Villefranche, nous avons l'habitude de, enfin nous l'avons déjà vu, puisqu'il est venu au K472 notamment.
Ouais.
Donc il avait fait une super prestation à l'époque, enfin comme d'habitude. Et là, ce qu'il nous a fait, il a beaucoup travaillé, et là, il nous a sorti un double CD, en fait, qui relate ses 30 ans de carrière.
Ouais. On entend la radio derrière toi, André.
Ouais, ben, je vais peut-être l'arrêter, parce que c'est pas normal. Voilà. Voilà, ça sera beaucoup mieux.
Tu nous disais qu'il célébrait ses 30 ans de carrière avec un CD, ce fameux Neil Black.
Un double CD, voilà, il a sorti pour... Donc, il a aussi fait, évidemment, ce qui est plus important pour lui, je pense, il a mis son premier live. Ça, c'était important. Donc, il est sur le CD. C'est un peu toute sa vie musical,
ouais.
Et qui est représenté ici, et c'est un album qui est vraiment très très fort. Évidemment il y a sa voix qui n'appartient qu'à lui, qui est exceptionnelle, mais il y a aussi sa façon de jouer. Neil Black, c'est vraiment le blues par excellence, et là il le représente très très bien. Et je sais pas quoi dire, mais je prends Monsieur John Swenson de Rolling Stone, du magazine Rolling Stone, qui dit que bon, c'est un choix savoureux, guitare slide impressionnante, beau solo, très fluide, et vocalement, il rentre dans les grands du blues, quoi. Voilà, c'est ce que disait le magazine Rolling Stone. Tout ça pour représenter ce Monsieur Neil Black. Moi, personnellement, je trouve que c'est grandiose, voilà ce qu'il fait, voilà.
Ouais. Neil Black, si je dis pas de bêtises, il a déjà été reçu sur notre antenne dans les émissions des BB Queen.
Alors, en plus, bien sûr, on le connaît bien, parce que dans l'émission des BB Queen, nous l'avons reçu. Et je crois même que si, dans quelques temps, il ne serait pas étonnant qu'il revienne, d'ailleurs, pour nous parler un peu de tout son CD et tout, là.
Très bien. Et puis, je crois
aussi... Voilà, parce que bon, c'est quelqu'un qui est vraiment très sympathique. En fait, il a beaucoup d'humour. On a beaucoup rigolé dans les studios lorsqu'il est venu. En plus, voilà, quoi, c'était très bien.
Ouais.
Et il nous a fait 2-3 lives. C'était bien dans les studios, voilà.
Et il a pas mal collaboré avec des artistes locaux comme Sophie Malbec, avec qui...
Ah, il y a beaucoup avec Sophie Malbec, ils ont travaillé ensemble, bien sûr, mais il n'y a pas que Sophie Malbec, il s'est entouré de beaucoup de monde, et c'est quelqu'un qui est très avenant, donc il est très facile à travailler, donc voilà quoi.
Bon, tu as choisi dans cet album qui s'appelle Wherever the Road Take Me, avec mon
voilà,
super
accent. Voilà, le titre de l'album, voilà.
Tu as choisi un morceau, c'est The King of San Anton, c'est un morceau studio.
Oui, parce que, voilà, mais c'est parce que, en fait, le CD, en fait, c'était, ouais, c'est compliqué, donc voilà, j'ai trouvé ce morceau, mais, en fait, tu me dis qu'il est studio, mais il est sur le CD, hein, tout
oui,
de façon.
Oui.
Oui, il est pas en live, hein, il est bien studio, voilà.
Ouais.
Voilà.
Le CD, il y a deux parties, il y a une partie studio.
Il y a une version Antonio, donc voilà le titre, voilà.
Ouais,
ça c'est exact, voilà, c'est ça, quoi, voilà.
Très bien, et ben merci beaucoup André, on va écouter ça tout de suite.
Et ben parfait.
Neil Black and the Healers, voici The King of San Antonio. À tout bientôt.
À bientôt.
Ticket on a midnight bus. I left a flower on her bed. That Texas judge, he don't like me too much. And my best friend. almost dead. How can I stay when there ain't no reason just to keep on hanging on? Something I didn't want to know. My hero, he killed a man in Phoenix City, but that was 40 years ago. Do you know how it feels to believe in a man, to find out you're wrong and let him go? Texas town, till I'm the king of San Antonio.
Sur Kellad avec donc The King of San Antonio, c'est ce qu'a choisi de nous faire écouter André Dutronc pour terminer cette émission avec le blues du jeudi. Je vous donne rendez-vous demain à 12h12 très précisément pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Kellad. On va parler de petits animaux, on va parler de lézards et de serpents, ce genre de choses. Voilà, je vous en dis pas plus. Dans quelques secondes, vous retrouvez vos pages d'information quotidienne, le journal de RFI pour l'information nationale et internationale, suivi du journal de Sylvie Rosier à 13h10 pour avoir toute l'information locale. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée, tout simplement. Prenez bien soin de vous. Cette émission, vous la retrouverez sur radio-calade.fr et en rediffusion demain matin à 10h. Ça y est, cette fois-ci, je vous dis au revoir. À tout bientôt. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.